Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Jardinières. Comme tous les week-ends, on se retrouve pour parler jardinage ensemble. Il est encore un petit peu tôt, oui, mais on se réveille gentiment. On prend son petit café et on retrouve Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour notre session jardinage hebdomadaire. Et comme vous le savez, nous ne sommes jamais seuls pour cette émission. Nous avons toujours le plaisir d'accueillir un professionnel qui se fait une joie de répondre à vos questions. Et aujourd'hui, c'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves, qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Et nous sommes le samedi 24 novembre 2018. L'hiver approche et on se demande souvent comment aider nos jardins et nos plantes à passer au travers de ces basses températures. Vous avez peut-être des questions à ce sujet, vous pouvez nous les poser par différents moyens, n'est-ce pas Sophie ?
Tout à fait, vous pouvez le faire par écrit ou par oral. Pour la version écrite, vous avez le formulaire que vous trouvez sur nos sites internet ou alors vous pouvez nous écrire aussi par SMS. Vous écrivez le mot « jardin » puis vous laissez un espace et vous tapez votre question. Vous envoyez le tout au 939. Et sinon, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'opportunité de discuter directement avec Olivier pour avoir la réponse qui vous convient. Et je rappelle que si vous choisissez l'option SMS ou le formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre question pour avoir une réponse des plus adaptées.
Et bien là, je crois que vous avez tout dit. On démarre notre émission des jardinières.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Et la première question nous est parvenue dans la semaine. C'est un auditeur ou une auditrice anonyme qui nous a écrit « J'ai acheté de la verveine citronnée en pot. J'aime bien me faire des tisanes avec ses feuilles. Est-ce que je dois la rentrer cet hiver ou est-ce que je peux la laisser dehors, Olivier ?»
Alors, elle pourra la rentrer parce que ce sera plus judicieux, surtout si on a un hiver qui devient très rigoureux. Et puis, que si elle, comme elle dit, elle a envie de faire des tisanes tout l'hiver, elle peut continuer de la mettre à l'intérieur dans un endroit très lumineux, pas trop chaud, parce que sinon elle va faire des petites feuilles toutes freluquettes. Donc, il faudrait la mettre plutôt dans un endroit frais pour qu'elle reste en feuilles, en végétation, pour qu'elle puisse continuer de couper ou à cueillir des feuilles dessus pour l'utiliser jusqu'au printemps. Il faut quand même savoir qu'il faut faire attention parce qu'en mettant une plante d'extérieur dedans, soit elle va avoir un choc de température, puis elle peut perdre ses feuilles assez vite. Donc même si elle les perd, elle peut les sécher pour les garder. Et puis après, bah, c'est des nouvelles feuilles qui reviendront au printemps regarnir sa plante. Ça arrive assez souvent parce qu'on va transférer cette plante d'une température trop basse à une température souvent trop haute. Ou à part si elle a une véranda froide, pas chauffée, vraiment juste hors gel. Et là, on peut la garder en végétation. Et puis, elle va rester belle tout l'hiver. Alors, voilà.
On a ensuite une question qui concerne un caféier. C'est Yolande qui s'est acheté un caféier cet été. Elle nous dit que tout allait très bien, mais que depuis qu'elle l'a rentré pour l'hiver, les feuilles s'abîment et deviennent marron. Et elle se demande donc pourquoi et ce qu'elle peut faire.
Alors, justement, ça rejoint pas mal la question d'avant. C'est une plante qui était dehors avec beaucoup de luminosité, donc avec une lumière directe, naturelle. Et puis maintenant, elle l'a rentrée dans une pièce où c'est qu'automatiquement, la lumière est déjà filtrée par un vitrage. Donc ça va baisser l'intensité lumineuse. Donc sa plante travaille moins, donc elle fait moins de photosynthèse, elle est moins vivante. Donc elle va automatiquement montrer des séquelles de tout ça. Et puis après, il y a toujours ce fameux choc de température. Donc c'est vraiment l'endroit qui était mal approprié à son caféier. C'est toujours pas très grave de perdre des feuilles, parce qu'une plante en hiver, de toute façon, même une plante qui garde son feuillage tout le temps, va en réduire une partie justement pour avoir moins d'évaporation, pour avoir moins de travail intérieur de la plante. Donc elle va rejeter un pourcentage de son feuillage. Mais ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est en garder quand même un maximum, parce que sinon, après, ben déjà, la plante ne sera pas très jolie. Mmh. Et puis, elle va avoir beaucoup de peine à redémarrer. Donc, si elle l'a rentrée tard et puis qu'elle l'a mise dans une pièce trop chaude, il faudrait peut-être déjà la ramener, comme on disait avant, dans une véranda ou vraiment une pièce avec des grandes fenêtres, mais fraîche, ce qui est difficile dans les maisons modernes, parce qu'il fait toujours très, très chaud. Donc, ou alors vraiment un garage ou comme ça. Et puis, essayer de la garder en... un petit peu en hibernation, pas la mettre en végétation dans un appartement chaud. Et puis attendre maintenant que les beaux jours du printemps reviennent et son caféier va refaire des feuilles. Mais alors là, maintenant, il faut faire attention aussi souvent quand il n'y a plus beaucoup de feuilles ou quasi plus de feuilles, de ne pas trop les arroser parce qu'il n'y a plus de travail du feuillage. Donc elle n'a plus besoin autant d'eau que si elle était en feuilles. Donc il faut vraiment régler son arrosage par rapport à la demande de la plante. Donc pour savoir ça, il faut contrôler le sol, contrôler le substrat. Et puis s'il est trop sec, ben, l'arroser, mais vraiment légèrement.
Ah ouais, la nature est bien faite, hein, finalement.
C'est un petit peu, il faut arriver à la comprendre et après c'est facile. Ouais.
On a une autre question de Christophe de Moutier qui nous pose la question suivante. Mon rhododendron est en pot. Est-ce que je dois le rentrer quand il gèle ?
Alors, c'est une plante d'extérieur à l'origine, donc il n'y a pas forcément nécessaire de la rentrer. Par contre, s'il est en pot, ben, il est dans une partie de plante qu'il faut faire attention s'il fait très très froid. Donc, ce qu'il peut faire, c'est le mettre dans un endroit un peu abrité, dans un bord de maison, le long d'un mur, et puis protéger surtout le pot, le système racinaire de ce rhododendron, soit avec de l'isolation, soit avec du Sagex, du styropore, des choses comme ça, pour que la motte ne gèle pas trop. Mais le feuillage, il faudrait le laisser à l'air, comme ça, pour qu'il puisse continuer de voir la lumière donc du jour naturel, et puis qu'il fasse son hivernage, lui, naturellement. Donc le mettre dedans, non, parce qu'il va aussi avoir trop chaud, puis il va perdre ses feuilles. Il est fait pour rester dehors. Donc protéger le système racinaire pour que le pot ne vienne pas à un bloc de glace quand il fera très très froid, parce que c'est par là que les plantes commencent de mourir toujours, c'est par les racines qui gèlent, puis après les feuilles montrent les séquelles que les racines ont gonflées, comme dans une bouteille d'eau, donc après ils vont plus pouvoir nourrir le feuillage. Donc il faut plutôt protéger la motte, les racines, et puis si on a des températures comme maintenant qui gèlent un tout petit peu, c'est encore pas très grave, c'est vraiment souvent les Noël, janvier, février, où on a vraiment ces grands froids, qu'il faut protéger son pot, déjà pour pas qu'il casse, et puis que les mottes restent un légèrement gelées, mais pas trop.
Donc c'est vrai que souvent on voit des gens qui enveloppent la plante, mais c'est pas forcément bon, alors ce serait mieux de vraiment protéger le pot où il y a la racine.
Alors on peut les emballer, mais c'est pas nécessaire de le faire maintenant tout de suite, parce qu'on on leur met encore une couverture, et puis que surtout les plantes qui gardent leurs feuilles, comme le rhododendron, donc ils pourront plus avoir de photosynthèse aussi facilement que quand ils sont à la lumière, mais on peut les emballer, mais seulement dans ces périodes où, comme on dit, décembre, il faut voir les températures qu'on a, décembre, janvier, février, où c'est qu'il fait vraiment très 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 froid, et puis que les plantes là ne travaillent plus beaucoup, sont vraiment à l'état de repos. Mais en attendant, on peut déjà protéger le pot, et puis ça on peut le laisser tout l'hiver pour que ce pot, ses racines ne viennent pas congeler, et puis qu'il n'en perde pas trop, pour qu'il ait assez de racines pour repartir au printemps.
La prochaine question, elle nous vient de Marie. Elle nous dit que sa haie de laurier commence très sérieusement à lui poser de gros soucis. Depuis la fin de l'été, les branches sont complètement desséchées, mais les feuilles ne tombent pas. Et elle se demande si c'est normal.
Alors, normal, je pense pas. Maintenant, c'est un peu bizarre parce que cette année, le laurier, c'est quand même une plante qui est venue très belle par rapport à d'autres essences comme le thuya ou autre. C'est quand même une plante qui supporte énormément le chaud et le sec, parce qu'il a un système racinaire qui est important, qui descend assez profond. Moi, à mon avis, s'il est vraiment sec, comme elle l'explique, puis que les feuilles restent dessus, soit ils sont plantés peut-être sur une zone très très aride, et puis là, vraiment, ils ont eu trop soif. Ce qu'elle peut faire, c'est couper ses rameaux qui sont desséchés. En enlevant, on voit bien quand on coupe une branche jusqu'où c'est brun, donc c'est jusque là que c'est mort. Et puis ce sera au printemps, en avril, quand les beaux jours reviendront, que des nouveaux bourgeons vont redémarrer, peut-être même du bas, du collet de la plante, donc de ce fameux laurier, parce qu'on peut couper vraiment des grosses branches. Hein, on a eu des ivoires des années où on doit les rabattre très fortement et 2-3 ans après, ils sont de nouveau à 1, 2, 3 mètres de haut sans problème. Donc je pense qu'il faut qu'elle nettoie ça, couper ça, et puis maintenant attendre les beaux jours pour que ces fameux lauriers reprennent. En peut-être mettant un petit peu un apport d'engrais justement au mois d'avril pour les relancer. Mmh. À mon avis, ils ont sûrement souffert du sec pendant cet été.
Les jardinières.
Nathalie nous a écrit pendant la pause concernant ses orchidées. Elle doit s'absenter pendant 2 mois et a plusieurs phalaenopsis, si je prononce correctement. Jusqu'à présent, elle posait les pots sur des gravillons dans un peu d'eau et une amie venait de temps en temps afin de vérifier. Mais elle cherche une autre solution. Elle a pensé à mettre dans chaque pot un goutte à goutte lent. Elle nous précise qu'habituellement, lorsqu'elle est chez elle, elle ne baigne ses orchidées qu'une fois tous les 15 jours au plus. Que pensez-vous de la solution goutte à goutte, Olivier ?
C'est une solution, mais moi je l'utiliserai seulement, je serai présent, parce que ça peut arriver qu'elle rentrera puis qu'elle aura un peu de l'eau partout dans la maison. S'il y a un petit souci défectueux dans la programmation ou comme ça, mais c'est pas nécessaire. Elle a meilleur temps de garder son système de gravillon qu'on va mettre au fond du pot. On va peut-être en mettre peut-être un tout petit peu plus qui remonte sur les côtés du pot. Mettre un peu plus d'eau au fond de ce gravillon et puis laisser une période de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines sans ramener de l'eau. Ça va surtout dans une période comme maintenant, si c'est en hiver, comme on disait avant, les plantes ont moins chaud, donc utilisent quand même moins d'eau parce qu'il y a aussi la lumière qui en manque. Donc la plante, on dit toujours la plante travaille, donc elle va absorber de l'eau, elle va faire une photosynthèse, elle va transpirer quand il fera chaud, comme on passe maintenant dans les appartements ou quand il y a des plantes vertes. Si vous passez à côté et puis que vous sentez des gouttes d'eau, c'est que l'eau, elle ressort par les feuilles. Donc, c'est de la transpiration végétale, ça arrive. Donc, on a meilleur temps de l'arroser bien, bien comme elle le faisait. Et puis, laisser 3 semaines, je dirais presque, si elle part et puis qu'elle diminue encore la température de l'appartement à 15 degrés, qui suffira. Donc, les plantes vont encore travailler un peu moins. Mmh. Et puis, rester comme ça parce que, installer un goutte à goutte, il y aura beaucoup d'eau, ou alors vraiment un truc qui soit fiable, mais ouais. Je pense que c'est plus facile de le laisser comme elle faisait avant.
Pour revenir sur ce goutte à goutte, justement, c'est. Alors déjà, c'est vraiment quelque chose de spécifique pour les plantes qui, justement, ont besoin d'un apport d'eau régulier.
Non, alors on trouve beaucoup maintenant dans les commerces spécialisés de systèmes d'arrosage et tout. On trouve des goutte à goutte pour même des plantes d'intérieur ou. Des trucs très individuels, vous allez planter ça dans le pot, vous mettez de l'eau et puis l'eau sort petit à petit, ça arrive. Mais sinon, on trouve aussi des gouttes à gouttes pour les extérieurs. On commence d'installer des systèmes d'arrosage, ben, c'est tout ça suite à des étés très chauds, très secs. Donc on peut mettre des gouttes à gouttes pour des végétaux, mais plutôt l'extérieur qu'on va mettre en place et puis qui vont rester pour plusieurs années pour faire des arrosages justement dans des périodes où c'est qu'on a ces grands soucis pendant les vacances, pendant l'été, où c'est que les plantes elles souffrent beaucoup.
Et donc les orchidées, c'est pas forcément la plante adéquate pour tester son goutte à goutte si jamais on a envie de s'en servir là-dedans.
Moi, si on parle de goutte à goutte pour une plante d'appartement, c'est plus ce qu'on voit dans les commerces. Des fois, c'est des petits appareils très rigolos qui ressemblent à des grenouilles tortues. On met de l'eau dedans.
Oui, c'est vrai qu'on voit ça souvent.
Que l'eau va sortir de cette petit objet. Et ça, c'est possible. Mais après, ça dépend des quantités de plantes qu'on a et la grandeur de plantes parce qu'il faut l'appareil qui soit adéquat. Proportionnellement à la grandeur du pot.
Mais ça nécessite quand même une surveillance, du coup, ça change pas de.
Moi, je pense quand même que. Voilà, mais on peut mettre ça et laisser 15 jours, 3 semaines, et puis repasser, remettre de l'eau dedans. Et puis, donc, si elle part en vacances plus que 2 mois, ça fait 2-3 passages, ça doit jouer.
Les jardinières.
Et on entame la deuxième moitié des jardinières. Et oui, déjà, ce matin, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves. Et jusqu'à 8h, vous pouvez lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour prendre soin de vos plantes.
Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant. Je vous le rappelle, les jardinières, c'est une émission qui vit grâce à vous. Quelle que soit votre question, vous pouvez la poser au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pourrez alors poser votre question directement à Olivier. Et sinon, on lit également vos SMS et vos formulaires. Je vous le rappelle, le formulaire, vous le trouvez sur nos sites internet. Et pour le SMS, vous écrivez le mot jardin, puis vous laissez un espace et vous tapez votre question et vous envoyez le tout au 939.
On a reçu tout à l'heure une question de Kylian qui a semé des oignons blancs et des rouges en octobre. Il nous dit qu'ils font déjà environ 2 cm. Alors sa question, c'est comment les protéger? Est-ce qu'il faudrait les pailler selon vous, Olivier Ribaud?
Alors non, pas trop parce qu'ils ont semé bien juste, c'est une bonne période. Mm-hmm. Ils sont sortis. Il faudrait, parce que les pailles, il va les recouvrir et puis après, ils auront de la peine à continuer de pousser ou ils vont même peut-être pourrir sous cette paille. Il aurait meilleur temps de mettre quelques petits arceaux en fer ou même des baguettes en bois arquées. Et puis en-dessus, il va mettre un petit voile, comme on met ces voiles de protection pour les plantes à grille blanc, qui vont laisser passer un peu de lumière quand même. Et puis ces oignons vont être un petit peu comme dans une serre, mais ce n'est pas un plastique, c'est un voile d'agrile. puis l'eau, l'humidité va aussi passer, rentrer, sortir, et que comme ça, ils pourront continuer de grandir là-dessous. Et puis s'il vient faire très très froid, il peut en mettre deux épaisseurs, ça fera une double protection pour ces plantes. Ce serait mieux que de pailler, parce que sinon, les nouvelles tiges, les petites tiges ne continueront pas de pousser, ou même elles vont se casser, puis après elles vont pourrir, et puis ça mettra beaucoup de temps à ressortir.
Et puis, est-ce que, juste histoire de pailler, ça maintient l'humidité ? Justement, ça peut
Alors,
peut-être...
Justement, un paillage amène toujours beaucoup d'humidité, ça garde l'humidité à la surface du sol, et puis pour un jeune semis comme ça, c'est pas nécessaire du tout. Non.
Et nous avons reçu une autre question de Nadine de Courtelary. Alors, c'est une question qui concerne le romarin. Le romarin qu'elle a planté ou qu'elle aimerait tailler, justement. Elle demande si c'est plutôt en automne ou au printemps qu'il faudrait le faire. Elle nous dit que le sien s'étoffe d'année en année, en largeur et en hauteur, et qu'elle aimerait le réduire, mais elle ne sait pas comment s'y prendre.
Alors, justement, les romarins, ça fait maintenant 2 ou 3 hivers qu'on a des hivers un peu cléments, donc ils font... De temps en temps, on a quelques bonnes gelées, mais ils supportent ces nuits froides. Et j'ai vu aussi chez des clients des romarins qui peuvent venir maintenant jusqu'à presque 1 mètre de haut sans problème, s'ils sont dans des situations un peu abritées. Alors bien sûr, elle peut le tailler déjà une partie en automne, je dirais moi, pour que elle puisse consommer, elle peut le sécher, elle peut l'utiliser, elle peut le distribuer. Oui. Et on peut en tailler une partie à l'automne, pour déjà donner un peu de place, et puis le protéger, parce que c'est pareil, dans les périodes, les mois très très froids, elle peut aussi lui mettre un voile, puis le protéger un peu au pied, avec des feuilles, de la paille, ou justement pour protéger le collet de la plante, et puis le système racinaire qui est juste en dessous de la plante. Et puis après, au printemps, alors si elle veut vraiment réduire ce plant, qu'il est vraiment trop grand, elle peut le rabattre jusqu'à 30-40 cm, du sol, donc vraiment faire une taille sévère, et puis c'est de là que le pied refera des jeunes pousses. Donc ce serait une taille en 2 phases, un peu comme les rosiers. On va faire une taille d'automne pour nettoyer, réduire un peu le volume du branchage, et faire une taille sévère, courte, au printemps.
Et puis nous avons Sophie, une personne au téléphone qui a quelque chose à nous dire.
Non, alors il n'est plus au téléphone avec nous, mais j'ai pris l'information qu'il nous a donnée. C'était donc Benjamin de Pierrefitte qui a appelé pour répondre à la semaine passée. Il y avait une question sur des petites pommes acidulées.
Ah oui.
Et c'était une dame qui cherchait justement le nom de ces pommes, et il nous dit que c'est des butchins, tout comme les habitants de Pierrefitte, voilà.
Ah, et c'est pour ça qu'il a tilté, ouais.
Voilà. Et il nous précise donc justement qu'on peut trouver ces petites pommes en bordure de forêt, et que c'est très apprécié pour faire le schnapps.
Les butchis.
Et ben voilà, ben on a la réponse justement. Alors si la personne qui nous écoute, elle va être très contente. On avait déjà eu un élément de réponse la semaine dernière, c'était avec Fabrice Rondet. Puis là, ben ouais, Olivier, vous saviez, hein, les butchis.
Les butchis, ouais. C'est une petite pomme sauvage qu'on utilise, qu'on laisse geler. Déjà, ouais. Avant de les cueillir, après on les ramasse, on fait une très bonne distillée.
Ah ben voilà, bah c'est une bonne info, évidemment. Merci donc à la personne qui nous a appelé. Et puis Sophie, il y a une autre question qui nous vient de Laure.
Oui, c'est une question qui concerne les pommes de terre. C'est Laure qui nous a dit, je cite, « J'ai récolté mes pommes de terre fin septembre. » Elle précise que c'est des amandines d'Olwen gourmandines. « Aujourd'hui, en apparence sur la peau, elles sont belles, aucune tache, mais à l'intérieur, il y a plein de taches comme de la rouille. Je voudrais savoir de quoi il s'agit. »
Alors, ça peut venir de... Moi, je dirais soit déjà d'une chose principale, c'est que quand elle a fait sa culture de pommes de terre, donc elle les a plantées au printemps, laissées pousser, peut-être elle a eu une attaque de mildiou pendant la saison. Donc le feuillage est devenu noir, il est venu peut-être pourri, séché. Et puis quand il y a eu les feuilles qui ont disparu complètement, elle les a récoltées. Et ce mildiou a pu être transmis au tubercule, donc à la pomme de terre. Et puis automatiquement, l'intérieur de la pomme de terre devient noir, un peu comme si il a des mycéliums noirs dedans, comme s'il pourrissait. Ça peut être la chose, ou éventuellement qu'elles n'étaient pas assez mûres quand elle les a récoltées. Si elle les a plantées tard, en saison, peut-être au mois de juin, et puis ils n'ont pas eu le temps de se développer correctement, et puis que peut-être aussi en même temps du mildiou, et puis les pommes de terre sont devenues attaquées. Donc elle ne peut plus faire grand-chose que de contrôler, les utiliser comme ça. Mais à mon avis, il y a eu un problème de mildiou pendant la saison, pendant la période de sa culture de pommes de terre.
Et ça, on ne peut rien faire.
Non, on ne peut plus l'enlever. Il y en a peut-être qui en ont plus, d'autres moins, mais c'est dû à ça.
7h, 8h, les jardinières.
Et il est 7h47, vous pouvez encore poser vos questions 0900 70 20 20. On est ensemble jusqu'à 8h. Et il y a aussi le SMS, on vous le rappelle, 939, le mot jardin, un espace et votre question. Et on a reçu justement une question de Giuseppe de Fontenay. Olivier Ribaud, qui aimerait savoir s'il peut semer des petits pois en ce moment. Nous sommes fin novembre et puis pour prendre un petit peu d'avance l'année prochaine, il se dit que peut-être justement il faudrait les planter maintenant. Alors si oui, est-ce qu'il faut mettre un couvert dessus ou des feuilles ?
Alors non, c'est trop tôt pour semer des petits pois, pour avoir une belle récolte au printemps, parce qu'on sait que le petit pois, bien sûr, on le sème tôt au printemps. Il y a quand même un dicton qui dit, pour ceux qui regardent un peu les calendriers lunaires, et puis qui sont un petit peu accros à toutes ces rubriques de jardinage, le petit pois se sème 100 jours après Noël.
Ah, donc, 100 jours après Noël, ça c'est bon à savoir.
Alors Noël, 24-25 décembre, vous calculez 100 jours, et après vous semez vos petits pois, et vous êtes quasi assuré d'avoir une bonne récolte. Je fais allusion aussi à une dame qui nous a téléphoné plusieurs fois au début quand on faisait les émissions Nelly de Keuve, et qui faisait beaucoup de petits pois, elle les semait toujours 100 jours après Noël. Et ça a toujours fonctionné.
Ouais, et des choses comme ça qui restent.
Hein. Et ça marque et ça reste, oui.
Donc là, on peut déjà... Alors Giuseppe de Fontenay, 100 jours après Noël, ça fait environ 3 mois et demi,
voilà.
J'imagine.
Donc ça fait début mars. Ouais.
Donc pas du tout maintenant.
C'est trop tôt. La terre va commencer à devenir froide, elle est trop froide. Mm-hmm. Par contre, au printemps, quand les terres commencent à se réchauffer, on les met dedans. Une épaisseur pas trop profonde, parce qu'une graine, ça se rebouche toujours 2 à 3 fois son épaisseur. Donc une graine de petit pois, on va la mettre 1,5 cm dans la terre, on va attendre qu'elle sorte. Et après, on peut les buter un petit peu, remettre un peu de terre au collet. Ouais. Mais les semer au printemps, et après, ça va donner une belle récolte.
Il y a d'autres légumes comme ça qu'on pourrait un peu prendre exemple sur les petits pois.
Je garde mes secrets.
Ah, il garde ses secrets.
On en donnera à faire à mesure.
Bon, c'est bien. Alors, on attend en tout cas plusieurs de vos secrets, en tout cas. Avant Noël, ça sera notre petit cadeau.
D'accord.
Et puis, Sophie, on vous retrouve parce que vous avez eu quelqu'un au téléphone qui vous a posé une question.
Oui, j'ai Thérèse Ducloc qui m'a appelée pour dire qu'elle a une dyspladenia qui fait à peu près, un peu plus d'un mètre. Elle l'a rentrée récemment, elle l'a mise dans une chambre où elle a beaucoup de lumière. Mais elle aimerait savoir, comment vraiment la garder, comment l'arroser, comment faire pour en prendre soin, parce que elle ne sait pas trop.
Alors, on va commencer par reprendre le dyspladenia. C'est une magnifique fleur d'été qu'on trouve maintenant beaucoup dans les commerces, parce que ça fait cette belle clochette rouge très forte, ou rose et blanche, qui sont des plantes qui se gardent assez facilement. Mais juste pour rappel qu'on a discuté au début d'émission, c'est des plantes qui, en hiver, on a beaucoup moins de lumière naturelle. Donc automatiquement, ces plantes vont perdre leurs feuilles, une bonne partie. Donc elle va la rentrer de nouveau dans un jardin d'hiver, une véranda, où il y aura le maximum de lumière chez elle, pour essayer de garder un maximum de feuillage sur cette plante. Parce que j'ai déjà vu des personnes, ils les mettent même à la cave, donc les feuilles tombent complètement. Après, c'est un peu comme les géraniums, mais... Après, la plante, au printemps, refait des feuilles. Donc, elle va la garder dans cet endroit froid, très lumineux. L'arroser, de nouveau, normalement, sans exagérer, parce qu'elle aura moins besoin d'eau pendant l'hiver. Et c'est possible, des fois, qu'elles font des longues petites pousses vertes claires, parce que c'est une plante grimpante à la base. Elle peut venir jusqu'à 2-3 mètres de haut sans problème. Donc, elles vont faire des petites pousses qu'on peut couper à fur et à mesure, parce que sinon, elles vont grimper un peu partout. Et puis pour la garder d'un format assez trapu. Et puis après, au printemps, elle refait du feuillage. Gentiment, elle ressortira cette plante dans les beaux jours dehors, en faisant attention au gelé. Et puis après, elle va refaire une floraison. En sachant que les plantes qu'on va garder chez soi pendant la période d'hiver, elles vont fleurir très tard. Parce que justement, en hiver, on n'a pas cette lumière, elles ne peuvent pas se développer. Que les plantes qu'on trouve sur le commerce et tout ça sont souvent cultivées dans des pays... c'est qu'il y a beaucoup plus de chaleur et de lumière qui sont importées, qu'on a déjà des plantes en avril-mai qui sont déjà toutes en fleurs. Donc sa plante à elle va fleurir en fin juin, début juillet, c'est pas un problème, et elle aura une belle floraison qui durera peut-être encore plus longtemps qu'une nouvelle, et qui fleurira jusqu'à l'automne quand elle devra la rentrer au mois d'octobre l'année prochaine.
Merci Olivier. Et Sophie, il y a quelqu'un qui est en ligne avec nous et qui a une question pour Olivier Ribaud.
Oui, on a Suzanne Desbaillères qui est en ligne avec nous. Bonjour Suzanne.
Bonjour Suzanne.
Oui, bonjour.
Bonjour, alors on écoute votre question.
Alors, j'ai des salades dans une serre, des salades iceberg d'hiver, et puis elles se font complètement sucer la racine par les poux, par les œufs de fourmis. Et puis, on peut pas tellement les traiter parce que les salades sont prêtes à manger, et puis elles sont en train de dépérir toutes l'une après l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des œufs de fourmis rouges?
Oui, ouais, alors c'est compliqué, parce que surtout si votre iceberg salade est quasi bonne à manger, c'est dommage de mettre un produit... chimique que pour combattre ces œufs. Essayez de contrôler les salades qui seront les plus attaquées. Sinon, si vous avez des salades qui peuvent rester encore 2 semaines en place sans être récoltées, là, vous pouvez trouver dans le commerce des produits phytosanitaires que vous allez mettre, vous n'allez pas mettre ça par-dessus la salade, vous allez arroser le sol autour de la salade pour que ces œufs et ces fourmis, comme vous dites, vont mourir sans mettre le produit sur la salade. Et puis, on a toujours marqué sur les produits, vous allez lire, les produits qu'on achète, qui sont aussi des produits que vous pouvez trouver naturels, il y a toujours marqué un délai d'attente sur un emballage. Donc, ce fameux délai d'attente, c'est la période que vous devez attendre avant de récolter pour que vous soyez sûr que ce produit ne soit pas venu rentrer dans vos salades. Mais si le dé...
Oui,
si
tout vous... à fait. Mais on peut...
Oui.
On peut faire quelque chose contre ces fourmis rouges qui viennent chaque année dans cette serre ou bien un traitement préventif.
Alors, vous pouvez le faire avant de la plantation de vos salades, justement. Alors là, vous prenez un insecticide et que vous mettez dans l'arrosoir et puis que vous arrosez votre sol. Mais ça, regardez plus précisément avec la personne qui vous vendra ce produit. Mais il faudrait le faire avant de planter, comme ça, votre sol sera propre pour une nouvelle culture, une nouvelle plantation.
Oui, parce que c'est chaque année que j'en ai, alors j'aimerais quand même une fois y remédier, parce que c'est vraiment dommage de faire des cultures puis qu'elles se dépérissent toutes l'une après l'autre.
Quoi, alors justement, une fois, faites un traitement, un produit que vous allez trouver, vous faites ça, vous attendez quelques semaines avant de replanter, comme ça une fois vous repartez sur une surface propre et puis que vous n'avez pas de souci d'avoir des résidus de ces produits pour éliminer ces épées.
Ok, merci bon, beaucoup, Suzanne. Merci pour votre émission.
Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Et puis nous avons, alors Olivier, on arrive bientôt en fin d'émission, mais on va vous poser notre petite question habituelle. Nous sommes le 24 novembre, est-ce qu'il y a quelque chose de primordial là tout de suite à faire au jardin pour pas que tout s'effondre?
Je pense qu'un peu comme tout le monde, on a un grand travail de ramasser tout ce que les feuilles mortes, ramasser. Nettoyer les jardins, feuillage, commencer ou continuer les tailles. Et il y a encore un petit dicton pour revenir sur notre petite discussion d'avant. Eh bien, on est dans la grande période de plantation des arbres fruitiers. C'est le petit dicton qui dit tout arbre planté à Sainte-Catherine fera racine. Donc, on est au 25 novembre. Mais... C'est maintenant qu'on plante fruitiers, pommiers, damassiniers, tout ça. Et on plante tous ces arbres en racines nues. Contrairement à ce qu'on pense, qu'on en trouve beaucoup maintenant en container, c'est faisable. Mais nous, en professionnel, on aime mettre des arbres fruitiers en racines nues. Donc, ils vont être mis en terre et ils commenceront de faire un système racinaire déjà pendant l'hiver. Comme ça, au printemps, mais ils sont prêts et ils peuvent démarrer.
Ah, ça, c'est un bon conseil en tout cas, hein, planter vos arbres fruitiers. Maintenant, le petit dicton d'Olivier est certainement encore vrai. Hein. Eh bien, le temps file, il est bientôt 8 heures. Hein. Merci Olivier Ribaud de vous être déplacé ce matin pour satisfaire la curiosité et les interrogations de nos auditeurs. Belle journée et à bientôt.
Eh bien, merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous qui avez posé vos questions ce matin. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, les jardinières reviennent la semaine prochaine. Vous pouvez alors dès maintenant poser vos questions par SMS au 939, toujours en écrivant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Ou alors vous pouvez nous contacter grâce au formulaire présent sur nos sites sous l'onglet émission. Questions aux jardinières. Vos questions seront traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Allez, bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.